Vous écoutez France Culture.
À voix nue, Philippe Petit s'entretient avec Pierre Legendre. Aujourd'hui, la face cachée du management. Alors, Pierre Legendre, avant de parler du credo commercial de l'Occident planétaire, vous aviez, je crois, un regret. Vous vouliez nous parler d'un exemple de propagande républicaine à la française qui vous a marqué.
Oui, c'est une chose très amusante qui montre aussi l'esprit des nations, les différentes manières d'aborder le pouvoir. C'était sous le Second Empire qui aussi, comme le Premier Empire, utilisait le référendum. Le référendum, ça peut servir toutes les causes. Et alors, la propagande républicaine avait fabriqué des assiettes à dessert qui circulaient et qui sont donc parvenues au fond de ma Normandie natale. C'est comme ça que j'en ai eu connaissance. Et alors, la scène est la suivante. Un paysan, la casquette à la main, demande à son député « Pardon, monsieur le député, qu'est-ce que ça veut dire, référendum ?» Et le député, très avec son grand chapeau, son habit de grand bourgeois, répond « Mon ami, c'est un mot latin qui veut dire oui. » Voilà l'histoire.
Qui veut dire oui. Alors, est-ce qu'il faut dire oui à la fois industrielle, oui au credo commercial, à la grande idée de la guerre totale industrielle qui, selon vous, s'est perfectionnée parce que le management est un savoir, c'est le savoir du pouvoir sans nom, dites-vous, qui déferle sur la planète et il annonce le règne de la gestion. Mais avant d'entamer ce périple, je voudrais tout simplement lire dans une de vos leçons, leçon 7, Pierre Legendre, le désir politique de Dieu, étude sur les montages de l'état du droit, page 65, voilà la définition du mot. Il y a, dites-vous, dans l'histoire trop peu travaillée du terme franco-anglais de management, voire en ancien français les formes manage, ménage, ménage, écrit AI puis ES, un enchevêtrement d'allusions à la famille, à la maison, à l'administration des biens, aux ustensiles, à l'idée même de gouvernement. Nous retrouvons là nos manières occidentales de parler, confuses et précises, familières et savantes, à propos de ce que nous appelons l'économie.
Voilà, le mot management est un mot européen, mais principalement d'origine française. Il a aussi des accointances avec le manège pour dresser les chevaux, etc. Mais c'est quand même un mot de vieux français qui nous est revenu en tant qu'anglais de la part de nos voisins d'outre-Manche. Bon, le management, malheureusement, je déplore beaucoup de choses. Je déplore que les intellectuels en France traitent tout ça comme indigne de pensée. Alors qu'il se joue à travers le management le destin de la société ultramoderne promue par l'Occident, et y compris le destin de la maquette euro-américaine sur laquelle sont censés s'aligner tous les individus qui peuplent l'univers humain. Voilà. Donc, nous touchons là à la mondialisation, au gouvernement des entreprises, à la gestion, au sens courant du terme, à l'efficacité, au marché, et aussi, parce que ça se déploie dans tous les domaines de la vie, ça touche à ce que nous appelons, nous autres occidentaux, civilisation, culture, société. Voilà.
Alors Pierre Legendre, vous n'êtes pas étranger au monde de l'entreprise et la réflexion sur l'industrie, elle est évidemment partie de votre expérience de consultant dont nous avons parlé au cours de nos entretiens, mais aussi elle est motrice, cette réflexion, dans tous vos films, j'allais dire, oui. Puisque les rites d'entreprise, la manière dont le management s'est approprié l'autorité du faste, la sensualité des rituels, se retrouve dans La fabrique de l'homme occidental, mais aussi sur le film qui nous occupe aujourd'hui, Dominium Mundi, l'empire du management, dont le scénario est déjà paru.
C'est le moment que je dise un mot sur ce genre de film, ce troisième film que j'élabore avec l'équipe que nous formons, avec le réalisateur Gérald Kaya et le producteur Pierre-Olivier Bardet. Nous formons vraiment une équipe, j'ose dire, de pensée. La pensée circule entre nous. Nous surmontons les difficultés de la négociation avec les instances où nous voudrions filmer. Enfin, nous réglons tout ça et nous avons un fil et qui est notre fil commun. Et donc, il y a une chose de base que je peux dire. C'est que, voyez-vous, j'ai introduit en anthropologie la question du sujet. Eh bien, le management mondial, les questions qu'il soulève, justifient amplement cet effort de ma part de ne pas disjoindre la question de la construction subjective et de la construction des cultures qui fait que je suis le continuateur dans ce domaine, sur ce versant, de ce que Freud a apporté, qui évidemment mis sous le coude, parce que ça ne peut pas conduire à des célébrations bien optimistes. Bon, cela dit, je voudrais faire remarquer une chose. Personne ne rêve à la place d'un autre. Personne. Tout le monde, n'est-ce pas, peut reconnaître ce fait. Personne ne rêve à la place d'un autre. Eh bien, il en va de même de ce que nous appelons les civilisations, les cultures, les sociétés. Et comme j'évite de... Vous connaissez ma doctrine qui consiste à éviter de transférer sur la planète des théories préfabriquées, préformatées, ce qui fait que les autres n'ont plus qu'à s'aligner. Bon, avec le concept que j'introduis de texte, nous voyons l'Occident dans ses constructions de sens, dans ses constructions herméneutique, pardonnez-moi ce grand mot, d'interprétation de l'homme et du monde, eh bien, confronté à l'espace mondial des textes. Bon. Ça veut dire qu'il faut revenir tout de même aux choses de base. De même que personne ne rêve à la place d'un autre, eh bien, les cultures sont le produit de solitude, c'est-à-dire de constitution d'identité. Il n'y a pas encore une science de la construction de l'identité à l'échelle des textes, à l'échelle des cultures. Et bien, voilà ce qui reste à faire et ce que le management nous engage vraiment à entamer. Bon, ça permet d'abord de situer...
Vous permettez, Pierre Legendre, un petit mot avant de développer ce point. Vous avez employé l'expression « équipe de pensée » et souvent sous votre plume, rendant hommage à Kantorowicz, par exemple, mais pas seulement, vous employez l'expression « la peur de penser » ou bien « une pensée qui ferait semblant de penser ». Or, ces films sont aussi une réponse à cette peur de penser.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est une tâche, une entreprise très difficile. Ces films sont une entreprise très difficile parce qu'au fond, il s'agit de filmer quoi ? De filmer la pensée. Bon. Et ça permet d'introduire une chose qui n'a encore jamais été faite dans ce film, le droit. on n'est pas entré dans le secret des cabinets d'affaires, mais ça serait, c'est, il y a une esquisse pour montrer ce que nous devons à toute cette histoire sédimentaire de l'Occident qui a produit cette occidentalisation du monde, dont qui échappe évidemment de plus en plus à la maîtrise occidentale.
Alors, quelle place occupent les rituels d'entreprise que vous filmez ?
Alors, les rituels
les grandes fêtes, les grands rituels. Peut-être vous pouvez évoquer la scène que l'on trouve dans l'Empire du Management, cette voiture qui est engloutie.
Oui, oui. Les Occidentaux produisent eux aussi des rituels, mais si on leur dit qu'ils produisent des rituels, ils auront une réaction de déni, puisque nous sommes dans le monde maîtrisé, rationnel, a-religieux. Du reste, au passage, ce mot religieux, c'est un produit typique du juridisme romain, donc occidental. Bon, je l'emploie pour la commodité, mais j'ai d'autres mots dans mon carquois, si je puis dire. Bon, mais voyez-vous, les rituels, nous avons une séquence là avec l'épiphanie d'une voiture produite par une grande firme française qui est vraiment étonnante. Et filmée par Gérald Kaya, ça devient métaphysique.
Elle est engloutie par des forces telluriques, non ? Ou alors émerge.
Nous avons ces séances qui sont portées, pour moi, elles ont été portées par un propos de Baudelaire qui parlait de la spiritualité de la toilette. Nous avons une séquence tout à fait étonnante dans une entreprise de cosmétiques japonaise où nous voyons l'application de ces jeunes femmes à conquérir les gestes, des gestes stéréotypés, standardisés, puisqu'il s'agit de vendre des produits de la toilette. Et je dirais au passage, je reprendrai la formule d'un manager américain et qui disait: à l'usine, nous fabriquons des cosmétiques. Au magasin, nous vendons de l'espoir. Bon, vous savez, il y a là un foyer de questions qui sont vraiment des questions humaines de fond. Alors, si on se prive de regarder ça, surtout de la part des Français, où il est de bon ton, du côté du monde intellectuel, de maudire les entreprises, de maudire l'économie mondiale.
Et notamment l'OMC.
Et notamment l'OMC. Je ne vois pas qu'il soit possible d'entamer une réflexion. Mais si les Français veulent rester à la traîne, ben ils resteront à la traîne. Je n'y peux rien.
Alors comment ne pas rester à la traîne, Pierre de Gendre ?
Ben, il faut lire ce que j'écris. Et regarder mes films.
Bon. On n'y manquera pas.
Vous allez noter que dans ce film, il y a toujours dans cette entreprise de cosmétiques une scène d'écriture, de calligraphie. L'application, comme avec le soin d'un designer qui fabrique un objet nouveau, et dans le cas japonais de cette écriture néanmoins traditionnelle, il s'applique à écrire la marque de la firme. Alors, la façon dont on peut regarder tout ça, évidemment, du côté de la tradition française, ce sera mal vu, ça je le sais par avance. Il y a une vieille histoire, une vieille caricature du 19e siècle, qui évidemment n'est pas française, mais qui disait, qui résume bien un peu, comment dirais-je, l'idéologie sociale, qui se vend très bien dans le monde éducatif et universitaire. Ça disait: les Anglais tous actionnaires, les Allemands tous factionnaires, les Français tous fonctionnaires. Ben, vous voyez, tant qu'on reste là-dedans, eh ben, ça ne va pas. Et tant qu'on reste dans l'idée qu'il ne faut jamais sélectionner, qu'il ne faut jamais, qu'il ne faut pas exiger, que chacun doit vivre dans son jus narcissique, il ne peut rien en sortir, eh bien, d'inventif, de grand, de nouveau. Bon. Donc, Pour moi, voyez-vous, il y a là un peu de ménage à faire dans nos manières de voir, où nous, les Français ne conçoivent le mécénat, par exemple, que public, parce que bien l'État, c'est à la fois l'objet de haine, mais aussi la mer inépuisable, la corne d'abondance, et pour parler comme on parlait dans ma Normandie natale, la vache à lait.
Oui, Pierre Lejean, d'un côté, vous nous dites le fond de la civilisation est touché, le management a pris possession de la planète. De l'autre, il y a une séquence dans ce film où Pascal Lamy est en train de discuter pour s'entendre avec divers pays sur le prix de la sardine, je crois. Et donc, de l'autre, vous semblez défendre l'OMC qui oblige les grandes puissance à rendre des comptes. Vous n'êtes pas particulièrement favorable aux ONG, en tout cas à certaines. Vous dites souvent qu'avec les ONG, on en fait trop. Bref, tous ces bluffs, mais en même temps, cette idée que le fond de la civilisation est touché, comme je le disais, il faut changer l'individu. Là, vous êtes très critique sur la life extension, justement. Alors, où est la part de vérité du management et où est la part de ces dangers? Mais la question est peut-être trop manichéenne.
Vous savez, non. Vous savez, toutes ces questions se tiennent.
Oui.
Vous avez des séquences très intéressantes et qui illustrent tous nos propos de notre échange. Qu'est-ce qui est le maître du monde? C'est le temps. L'autorité, qu'est-ce que c'est que l'autorité? C'est d'abord le temps. Et alors, voilà qui est contesté. D'abord, au plan subjectif et institutionnel, on s'attaque aux constructions millénaires du principe généalogique.
D'accord.
Il n'y a plus ni père ni mère, etc. Bon, la mêlée générale, narcissique, des petits nouveaux enfers familiaux. Et d'autre part, ce qui va avec, parce que la généalogie et l'autorité dans les systèmes familiaux, c'est tout simplement la reconnaissance que le temps passe, qu'il y a la vie et la mort, et que s'il y a des parents et des enfants, c'est parce qu'il y a la succession des générations. Ça, toute l'humanité a compris cela jusqu'à présent. Mais voilà que les Occidentaux prétendent abolir cela. Remettre en cause les âges de la vie.
D'accord.
Les parents, il ne faut plus parler de père ni de mère, etc. Nous avons déjà évoqué cette question.
Oui.
Et les enfants deviennent les parents de leurs parents. Bon. Et d'autre part, ce qui va avec ça, bien sûr, l'abolition du temps, c'est-à-dire l'abolition de la mort. C'est le programme, nous avons cette séquence tout à fait exceptionnelle,
oui,
de marketing. Alors, vous choisissez de vous faire ressusciter, soit en donnant seulement votre tête, ça coûtera moins cher que le corps tout entier. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est très important ce qui circule dans le monde.
C'est la séquence sur la congélation éternelle.
Les grandes doctrines qui ont été l'illusion des premiers vieux, ce qu'on a appelé les vieux bolcheviques, qui voulaient vaincre eux aussi la mort, c'est vieux comme le monde, et je dirais c'est typique de la culture venue du christianisme, abolir la mort. Bon. Ils voulaient ressusciter Lénine, ils l'ont embaumé en ayant à l'horizon, j'oublie le nom de ce médecin très connu dans le folklore soviétique, embaumé les héros pour les ressusciter. Eh bien, le libéralisme uni à l'esprit libertaire, vous fabrique cet horizon.
Horizon d'abolition.
D'abolition de la mort, évidemment, moyennant finance, puisque nous sommes dans le système où tout s'achète et tout se vend. Voilà un exemple typique. Bon. Alors, évidemment, ça demande tout de même réflexion. Et alors, vous me parlez de l'OMC.
Dans le film, ceux qui vendent cette congélation éternelle n'ont pas l'air très vivants. Hein.
Ben, je ne sais pas, peut-être êtes-vous sévère avec eux, ils font leur métier,
oui,
avec la même naïveté oui, et la même foi en, ce, en leur propre parole que ceux qui nous vendent l'abolition de la différence entre les hommes et les femmes, entre les enfants et les parents, etc. Je ne vois pas personnellement la différence.
D'accord, d'accord, bon. de ce point de vue.
Et alors, pour ce qui est de l'OMC, les ONG, c'est très bien, il y a des ONG qui font un remarquable travail, mais il y a de tout dans les ONG. Et puis, ce déferlement d'ONG sur la planète, que personne ne maîtrise, les polices diverses et variées doivent bien avoir des idées sur à quoi servent un certain nombre d'ONG, mais aussi, ça c'est révélateur d'un mouvement de reféodalisation planétaire. Nous avons ça, mais nous avons aussi alors, les empires transcontinentaux, que sont les entreprises géantes qui rivalisent sur le marché. Bon, mais il faut quand même comprendre ce qui se passe. Et je comprends mal qu'on s'en prenne avec hargne, esprit de système, à cette tentative de l'OMC, qui, je vous le signe en passant, n'est pas un produit de l'ONU, c'est un traité international. Bon, Pascal Lamy a bien voulu nous introduire, se laisser filmer, expliquer. Et Gérald Kaya a choisi les meilleurs plans pour faire comprendre en peu de temps ce
faire comprendre une négociation.
C'est-à-dire, oui, on n'assiste pas aux négociations, mais on explique tout de même le béaba de ce dont il s'agit dans l'OMC. C'est tout de même, il y a l'esquisse d'un tribunal où les plus puissants doivent rendre compte. Mais tout ça, c'est dans les rapports de force mondiaux où les Occidentaux peuvent penser qu'ils sont les meilleurs et les plus forts, parce qu'ils sont tout de même, il faut avoir la vérité, sous le bouclier jupitérien de la superpuissance américaine. S'il n'y avait pas ce bouclier militaire, je ne sais pas ce que serait la pensée occidentale toujours triomphante. Il y a donc dans ce film aussi, vous aurez remarqué, une séquence sur l'armée. Techniquement, scientifiquement, c'est la victoire programmée. Bon, ça fait partie des grandes illusions. Ce qui m'inquiète personnellement, c'est l'absence de pensée sur tout ça, et particulièrement sur le management, parce que si ceux qui sont en charge et ceux qu'on éduque pour penser le monde qui vient, sont eux-mêmes pris sans recul, sans critique, rabâchant les thèmes démocratie, etc. Mais sans comprendre le fond des choses, quand ils auront des décisions à prendre, ils deviendront vraiment dangereux pour leurs semblables. Je suis très réservé sur l'évolution de la science politique et de la réflexion sur les problèmes stratégiques. Bon. Donc, nous avons là... Oui, il faut aussi...
Mais cela revient à dire, votre réflexion, elle porte autant sur la fonction gestionnaire que sur la manière dont vous anticipez l'avenir du lien religieux. En fait, les deux choses sont liées.
Oui, toutes les choses sont liées. D'abord, je regrette que le mot religieux soit toujours en usage et qu'on ne cherche pas autre chose. Bon, j'ai fait des propositions là-dessus, mais elles sont plutôt comprises, je pense, ailleurs qu'en Europe. Bon, mais je constate une chose, c'est que les sciences sociales sont toujours en retard. Elles nous parlent du monde d'hier. J'ai toujours à l'esprit mon expérience africaine où j'étais sous le coup des consignes pas toujours explicites, mais bien comprises par les experts, qui est, alors que ce soit pour les sociologues d'Occident ou pour les sociologues soviétiques, la doctrine commune était, ça résume à ceci, partout où passe le progrès moderne, les religions se folklorisent ou disparaissent. Donc, ça faisait des gens qui étudiaient, qui étaient censés étudier le développement des sociétés locales, par exemple, dans les pays musulmans comme si le Coran n'existait pas. Bon, eh bien moi, j'ai compris que nous étudions l'Occident sur le même mode, comme si le monument romano-canonique, qui est l'autre Bible de l'Occident, c'est-à-dire toute cette construction médiévale à la fois de droit romain et du système pontifical, qui a esquissé les grandes institutions modernes et notamment dont est sorti le concept d'État, comme si ce monument n'existait pas. Eh bien, nous sommes dans cette illusion. Alors, moi, j'attends à voir quels seront les pronostics devant le monde qui vient, parce que ce qui sera, il faudra tout de même qu'un jour, les Occidentaux rencontrent la limite. Le système soviétique a rencontré sa limite. Eh bien, l'Occident, qui est aux prises avec l'absence de doute et les fantasmes débridés, une sorte de démence sociale qui nie l'autorité du temps, eh bien, il faudra que ça trouve sa limite.
Pierre Legendre, la semaine s'achève. Nous avons atteint la limite de nos entretiens. Je renvoie évidemment les auditeurs à vos travaux, à vos films, et en espérant que vous serez entendus. C'était À Voix Nue. Philippe Petit s'entretenait avec Pierre Legendre. Réalisation Dominique Costa. Prise de son Laurent Macchetti et Jean-Marie Porcher. Vous pouvez réécouter les émissions pendant une semaine sur le site franceculture.com. Thank you.